Alors, il y a cette autre dimension dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la sophroanalyse. C'est une dimension beaucoup plus découvrante. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle est dans cette zone-là, dans cette zone alpha, dans ce niveau sophroliminal, on va l'emmener à travers un rêve éveillé, un voyage, pour aller explorer donc cette dimension que l'on appelle découvrante, cette dimension proche, donc inconsciente, et à travers l'analyse de symboles, si telle est bien sûr notre spécialité, eh bien, on va avec elle essayer d'interpréter tous ces symboles. J'ai découvert également dans la sophrologie cette dimension spirituelle, et Caicedo a eu ce grand mérite de créer ce qu'on appelle la relaxation dynamique. La relaxation dynamique est une sorte de philosophie de vie. Il est parti du principe là aussi que ce schéma, vous le connaissez peut-être, puisque c'est le schéma de l'homme total équilibré sur les trois étages, c'est-à-dire le physique, le psychique, le spirituel. Vous le retrouvez également dans d'autres. Par exemple, on a travaillé sur les fameuses cuirasses, les cuirasses reichiennes. Lowen a travaillé sur la bioénergétique. Eh bien, c'est également l'équilibre entre ces trois étages, sans clivage entre les étages. Alors, la relaxation dynamique premier degré, qui concerne le monde du réel, le monde physique, c'est la levée des blocages. C'est la levée des blocages à travers la respiration, à travers des techniques issues du yoga, le grounding, la prise de conscience de schémas corporels. On va activer les cuirasses à tous les étages de manière à faire en sorte que cette énergie circule partout dans le corps. À partir du moment où on a levé les blocages, on va travailler donc sur le moi, sur le je, J-E. On va lever les blocages pour accéder à ce monde du psychique, à ce monde de l'affectif, à ce monde sensoriel. Le moi sujet va devenir un moi objet. C'est le travail sur le monde du symbole. Et une fois que l'on a accédé à ce monde de l'affectif, on peut s'ouvrir à ce monde de l'imaginaire qu'est le spirituel, c'est-à-dire la méditation. Le non-moi, le silence. Alors bien sûr, tout ça se fait, je dirais, un peu dans la douleur, parce que ce n'est pas facile. On ne peut pas accéder au monde psychique, à l'affectif et au spirituel sans avoir, je dirais, travaillé sur son physique, c'est-à-dire sur le corporel. Et à tous les étages, effectivement, il y a ces nœuds qu'il y a lieu de délier pour que cette énergie puisse circuler. Donc c'est un travail passionnant, intéressant. On va faire ici ce qu'on appelle la RD1, relaxation dynamique premier degré, issue de l'hindouisme, issue du bouddhisme, issue du zen, donc 1, 2, 3. Et on va faire ce parcours-là, premier degré, deuxième degré, troisième degré, en passant par ce parcours méditation spirituelle. Et surtout, on va revenir ici et maintenant, puisque nous sommes quand même dans le monde du réel, nous sommes dans le carré, dans le présent, venir vivre ici et maintenant, dans son présent, fort de l'expérience que l'on a vécue ici et surtout ici. Ça ne sert à rien d'aller au Tibet et de rester dans des états méditatifs alors que nous vivons ici dans le réel et dans un brouhaha. Mais ce qui est intéressant, c'est de puiser l'énergie et une force suffisante que l'on a recueillie ici, dans cette dimension spirituelle, pour revenir ici dans notre carré, vivre ce que l'on a à vivre. Voilà en ce qui concerne cette philosophie de la relaxation dynamique qui mène à la spiritualité. Et en ce sens-là, effectivement, la dimension spirituelle en sophrologie est non négligeable. Et je crois que de plus en plus, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, avec ces stress permanents auxquels nous sommes soumis, cette dimension, elle est fondamentale. En ce qui me concerne, je l'ai découverte il y a une quinzaine d'années. Et comme je vous disais en début de cette petite présentation, nous sommes tous en chemin. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur ce qu'est la sophrologie. Et bien sûr, je suis tout à fait ouverte et je suis tout à fait heureuse de répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser par rapport à ce parcours en sophrologie et mon parcours. Et je voulais vous dire aussi un petit mot par rapport à ce tabou dans la famille. Pourquoi par rapport, j'ai un petit peu réfléchi à cela. Ernest, qui était mon grand-père, qui était donc le fils cadet de Sigmund, exécuteur testamentaire et architecte, est parti bien avant tout le monde et a quitté Berlin pour préparer l'arrivée de Sigmund à Londres. Il a trouvé la maison qui est aujourd'hui à Mariansfield Garden, dans laquelle se trouvait également Anna, ma grande-tante. Et cette maison, il y a pris un grand soin. Il a voulu que son père y passe ses derniers moments dans les meilleures conditions possibles. Je vous engage d'ailleurs vivement, si vous êtes à Londres, d'aller voir ce musée qui est, enfin, cette maison qui est très belle. Et en fait, je pense que la psychanalyse a en fait beaucoup accaparé mes grands-parents. Il y a un très bel ouvrage qu'ils ont écrit qui s'appelle en allemand, qui a été traduit en anglais. Je pense qu'il n'existe pas en France, mais si vous allez tant au musée de Londres qu'au musée de Vienne, vous allez probablement le trouver et pouvoir le feuilleter. C'est un très beau livre d'images avec des souvenirs très émouvants. Sa vie, son œuvre, écrit donc par ma grand-mère Lucie aussi, dont je porte le deuxième prénom. Et en fait, la psychanalyse a beaucoup accaparé mes grands-parents. Et je pense que mon père a dû probablement, il avait 8 ans lorsqu'ils ont quitté l'Allemagne. Elle a accaparé donc toute la famille et elle a un peu volé finalement ses parents. Donc pour lui, c'était vraiment tabou. En fait, c'est ce que j'ai cru comprendre, ce qu'il n'a jamais dit, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Voilà pour la petite histoire familiale. Je vous remercie de votre écoute.
Je pense qu'il va y avoir des questions.